Douce, Youssef et Jade à l'antenne. Après une année de travail acharné autour de la web radio, les élèves de seconde 602 vont vous présenter leur émission. Il y aura du sport, de la culture, de la science et encore plein d'autres choses à découvrir.
Alors, tout de suite, on découvre trois de nos camarades, Zoé, Servane et Manon, qui nous parlent d'un sujet très actuel, le réchauffement climatique.
Bonjour à tous, au micro, Servane,
Zoé
et Manon.
Et aujourd'hui, on vous alerte. On a décidé d'aborder un sujet qui nous concerne tous et sur lequel il est urgent d'agir.
Et oui, vous l'avez bien compris, nous parlons du réchauffement climatique. Les gens ont besoin de connaître son importance, sa cause et ses terribles impacts sur notre planète.
Alors, commençons par faire un point. Sécheresse, inondations, incendies, tempêtes, cyclones, hausse du niveau des océans sont malheureusement des phénomènes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, menant donc à des conséquences dramatiques.
Aujourd'hui, 1,5 million d'animaux marins meurent chaque année à cause des déchets plastiques. Vous trouvez ça normal? Si on n'agit pas d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ces phénomènes sont causés par un seul élément, qui est évidemment l'activité humaine. Les humains ont engendré 322 extinctions d'espèces au cours des 500 dernières années. La surconsommation, l'utilisation des transports, la déforestation et toutes les productions émettent du gaz à effet de serre qui ne cesse de croître. D'ailleurs, il a provoqué une augmentation moyenne de la température mondiale de 1,1 degré.
En effet, les chercheurs sont formels. Les effets du changement climatique sont désormais généralisés et souvent irréversibles à tel point que l'humanité et les écosystèmes dont nous dépendons sont menacés. Effectivement, si des mesures radicales ne sont pas prises urgemment, le réchauffement pourrait ainsi dépasser à terme les 3 degrés et malheureusement 2/3 des espèces animales pourraient disparaître.
Mais savez-vous comment vous pouvez sauver la planète avec de petits gestes? Alors, c'est très simple, hein. À la maison, vous pouvez faire du compost, ce qui réduirait en moyenne les déchets de 40 kg. C'est vraiment énorme, hein. Faites aussi don de vos anciens vêtements au lieu de les jeter. Par exemple, en Touraine, il y a Emmaüs, une association qui redonne vos vêtements aux personnes les plus démunies. Ou encore, vous pouvez réduire vos emballages en achetant en vrac ou en faisant attention aux produits achetés. Tous ces petits gestes faciles à appliquer au quotidien peuvent changer notre avenir. Finalement, il est vraiment grand temps d'agir.
Alors, agissez, vous êtes menacés.
D'accord, eh bien merci beaucoup pour ces explications détaillées. Maintenant, départ pour un voyage galactique direction Mars avec Kiara et Nathan.
Et oui, aujourd'hui nous allons vous parler de Curiosity, un robot en exploration sur Mars qui a récemment photographié, en février 2021, une petite et étonnante concrétion minérale à la surface de Mars. Son processus serait assez similaire aux roses des sables terrestres.
Cette fleur s'est formée quand l'eau était encore présente sur la planète Mars. La roche a effectivement une forme de fleur, ce qui lui a valu le surnom de fleur minérale.
Le rover Curiosity a capturé cette image de la fleur minérale avec le Mars Hand Lens Imager, une caméra située à l'extrémité de son bras robotique.
La fleur se situe actuellement à Aeolis Mons, une montagne au centre du cratère Gaul, qui mesure près de 155 km de diamètre. Finalement, y a-t-il peut-être plus de points communs entre la Terre et Mars que nous le pensions ?
Merci beaucoup, Kiara et Nathan. La science te réserve encore bien des surprises.
Maintenant, on accueille sur le plateau Ryan et Lucien pour parler de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar et des conditions parfois déplorables dans lesquelles les ouvriers construisent les équipements. Lucien, peux-tu nous rappeler la date à laquelle se déroule cette compétition ?
Oui, la Coupe du Monde de football va se dérouler du 21 novembre au 18 décembre 2022. Elle a été décalée en raison des trop fortes chaleurs du Qatar en été. En décembre, les spectateurs auront moins de risques de suffoquer et les joueurs pourront jouer dans de bonnes conditions.
Mais tout cela a un prix. La création de stades climatisés a occasionné de nombreuses polémiques, car le recours à la climatisation a bien sûr un gros impact écologique et environnemental.
Oui, c'est vrai. Un rafraîchissement artificiel de l'air génère des dépenses énergétiques significatives.
Les climatiseurs sont la source d'une hausse des températures dans les grands centres urbains, car ils rejettent à l'extérieur la chaleur qu'ils ont pompée à l'intérieur.
On entend aussi beaucoup parler des ouvriers qui construisent les infrastructures.
Oui, sur les chantiers, la plupart des travailleurs sont des immigrés qui sont très mal payés et qui effectuent les travaux dans des conditions dangereuses et choquantes.
Oui, en effet, ils travaillent dans des chaleurs extrêmes d'environ 45 degrés, ce qui peut les rendre malades, voire les tuer.
On enregistre environ 6500 décès ces 10 dernières années depuis le début des travaux au Qatar, ce qui est énorme et scandaleux.
Et les décès de ces travailleurs ne semblaient pas émouvoir grand monde au départ. Mais depuis quelques temps, des associations de défense des droits de l'homme sont intervenues pour obtenir que les ouvriers aient de vrais contrats de travail et soient rémunérés correctement. On espère que ça va durer.
Merci à tous les deux. On reste dans le monde du sport avec Younes, Youssef et Denis qui vont nous faire un point foot.
Alors bonjour à tous. En 2021, Messi a décidé de quitter le FC Barcelone pour être transféré au PSG. Il quitte le Barça après 21 ans de carrière et ce transfert a beaucoup déplu aux supporters. On accueille un amateur de foot tout de suite sur le plateau. Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors première question, est-ce que tu suis régulièrement l'actualité du foot ?
Oui, je suis le foot depuis que je suis tout petit.
Que penses-tu globalement du ratio de buts de Messi ?
Bah, je trouve que cette saison il a été très mauvais et il a mis peu de buts.
Penses-tu que Paris aurait dû investir dans un autre joueur ?
Oui, ils auraient dû garder. Je pense qu'ils auraient dû garder Moïse Kean à la place de prendre Messi.
Donc en fait, avec tous ces rachats de joueurs, on peut parler d'économie du foot.
Oui, c'est exactement ça. L'argent est la principale motivation des présidents des clubs. Ils dépensent énormément d'argent pour se procurer la nouvelle pépite du foot, ce qui fait beaucoup parler dans les médias. Dans le monde du foot, les transferts sont très fréquents, notamment deux fois dans l'année. Le mercato d'été et pendant celui d'hiver où les joueurs sont totalement libres. Et plus les joueurs est fort et a une grande notoriété, plus son prix va être élevé. Messi touchait un salaire d'environ 60 millions d'euros au Barça, ce qui est une somme astronomique. Maintenant qu'il est au PSG, il sera rémunéré à environ 40 millions d'euros par saison.
Bonjour Sébastien, alors aujourd'hui nous allons vous parler de la CAN.
Bonjour Rania, mais c'est quoi la CAN au fait ?
La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a lieu tous les deux ans, mais elle est organisée les années impaires afin d'éviter qu'elle se dispute la même année que la Coupe du Monde de football.
Ah, je comprends mieux, mais c'est un peu vague. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ?
Tout d'abord, la Coupe d'Afrique des football est la 33e édition de la Coupe d'Afrique. Elle devait avoir eu lieu en 2021, mais en raison de la pandémie de Covid-19, elle a été reportée au 9 janvier 2022.
Je voulais te demander, mais qui a gagné la dernière édition ?
C'est l'Algérie, mon pays d'origine.
1, 2, 3.
Vive l'Algérie.
Trop bien. Et du coup, quels pays ont participé à la Coupe d'Afrique cette année ?
Le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, le Maroc, l'Algérie et plein d'autres encore. Tout simplement tous les pays d'Afrique.
Et qui a gagné cette édition ?
C'est le Sénégal qui a gagné, qui a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Après un match, au bout du suspense face à l'Égypte, les Lions de la Teringa remportent leur premier trophée continental.
Oui, est-ce que tu as entendu des rumeurs selon lesquelles il y a eu des probabilités de triche et de sorcellerie ?
Oui, j'ai entendu ces rumeurs, mais tu sais, dans cette CAN, il y a eu beaucoup d'imprévus. Comme par exemple le stade du Cameroun qui a été fortement abîmé jusqu'à en venir à 8 morts. Et aussi comme quoi le Cameroun faisait de la sorcellerie sur les adversaires. Oui, mais ça fait partie du folklore.
Une CAN plutôt étrange, je trouve. Mais la CAN, c'est aussi l'occasion de réviser notre bestiaire africain. Car comme tu le sais, toutes les équipes africaines ont un surnom. C'est par exemple le cas des Lions Indomptables du
Cameroun. Les Fennecs.
Algériens.
Les Lions de l'Atlas.
Marocains. Les Aigles de Carthage.
La Tunisie.
Les Super Eagles du
Nigeria. Et les Chipolopolos.
Les Chipolopolos, ça c'est mes préférés, de Zambie. Et enfin.
Les Écureuils du Bénin.
Oui, qui veulent changer de surnom car ils trouvent que par rapport aux Lions de la Teringa, de l'Atlas ou aux Lions Indomptables du Cameroun, évidemment, c'est un peu ridicule. Eh bien, merci Laman pour cette chronique sur le football africain.
Walk on my head, walk on my head. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du foot dans cette émission, alors place au rugby avec Lino et Ryan qui s'intéressent au tournoi des 6 nations. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroulait ce tournoi ?
Eh bien, le tournoi des 6 nations est une compétition de rugby à 15, disputée chaque année en février et en mars par l'équipe masculine d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie.
Et maintenant, Ryan, expliquez-nous comment fonctionne le tournoi.
Alors, il n'y a pas de qualification dans ce tournoi, mais toutes les équipes doivent s'affronter pour, au final, établir un classement en fonction des résultats de toutes les équipes. Si des équipes sont à égalité, le bonus offensif, c'est-à-dire quand une équipe marque 4 essais de plus, peut déterminer l'issue du tournoi.
Et l'équipe de France alors ?
Cette année, l'équipe de France A15 dispute le tournoi des 6 nations pour la 92e fois de son histoire, ainsi que deux tournées. C'est la troisième année que Fabien Galthié est à la tête de l'équipe de France.
J'ai entendu dire que de nouvelles équipes veulent intégrer le tournoi.
Alors, en février 2020, plusieurs pays ont manifesté leur envie de rejoindre le tournoi des 6 nations pour 2025. L'Afrique du Sud, le Japon et les Fidji, pourtant hors du continent européen. La demande de l'Afrique du Sud suscite de nombreuses réactions et pas mal de rumeurs. On verra si cette équipe pourra participer au prestigieux tournoi. Mais j'ai entendu que la France avait un grand chelem, mais qu'est-ce que c'est ?
On entend souvent parler de grand chelem dans le rugby à 15. C'est un terme utilisé lorsqu'une équipe nationale gagne tous ses matchs lors d'un tournoi des 6 nations ou d'une tournée contre les nations britanniques et irlandaises. La France a réalisé 10 grands chelems, le premier en 1968, le second en 1977, le troisième en 1980, et on aura dû attendre 12 ans pour avoir le 10e en 2022.
Merci pour ce point rugby et à la prochaine! Merci pour ce point rugby et à la prochaine.
Tout de suite, on accueille Zachary et Denis qui vont vous présenter le sport traditionnel tchétchène, la lutte.
C'est un sport qui se pratique en corps à corps, sans percussion, c'est-à-dire sans donner de coups. La lutte est pratiquée depuis très longtemps. Sur certaines peintures rupestres égyptiennes qui datent de 5000 ans, on peut déjà y voir une certaine forme de lutte. Elle est ensuite pratiquée pendant l'Antiquité, mais prend plus d'importance en 1896. À l'occasion des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes.
Mais dis-moi, Zakaria, quel genre de règles faut-il respecter ?
Il y a deux types de règles dans la lutte. Premièrement, les règles de la lutte libre. Pour gagner, il faut soit avoir 10 points d'écart avec son adversaire, soit maintenir son adversaire pendant 3 secondes sur le dos.
D'accord, et comment on les gagne ces points ?
Il y a différentes manières. Soit on projette son adversaire de haut en bas et cela nous rapporte 5 points, soit on sort son adversaire du cercle, ou encore, on fait passer son adversaire sur le dos au sol, ce qui rapporte 2 points.
Mais dis-moi, Denis, tu as toi-même pratiqué de la lutte, non ?
Oui, pendant 11 ans, et je peux vous affirmer que c'est un sport très physique. Il faut beaucoup de cardio, mais tout ça se travaille. Il faut aussi un bon mental et être respectueux envers l'entraîneur, comme avec ses coéquipiers. La lutte sollicite tous les muscles du corps et tous les types de contractions musculaires.
Je suis totalement d'accord avec toi, Denis. J'ai envie d'ajouter qu'il faut une rigueur à toute épreuve. Il y a aussi une grosse pression concernant les compétitions nationales tous les 2-3 mois. C'est pourquoi il faut du sang-froid pour pouvoir performer dans ces dernières.
Pour tous ceux qui voudraient pratiquer ce sport, vous savez maintenant à quoi vous attendre grâce à Zakaria et Denis. Et on retrouve maintenant dans le studio Léna et Laurette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous parler de jeux vidéo, et en particulier de Genshin Impact. Bon, alors c'est quoi ce jeu ?
C'est un jeu d'aventure gratuit et multijoueur qui se déroule dans un monde nommé Teyva. Dans cet univers, une sœur et son frère se retrouvent séparés par une déesse inconnue. Le jeu commence donc comme ça, on doit choisir d'être voyageur ou voyageuse à la recherche de l'autre.
Donc c'est un voyage imaginaire ?
Pas seulement, ce jeu englobe des combats, des quêtes d'aventure et aussi des événements. Par exemple, on a des personnages à débloquer et il faut améliorer leur niveau pour devenir plus fort.
Et ce jeu, est-il récent ?
Eh bien, Genshin Impact est sorti officiellement en juin 2019. Il a été créé par MiYoYo. C'est une entreprise chinoise fondée par des étudiants voulant inventer des jeux vidéo basés sur les animés. Il faut savoir qu'il y a environ 56 millions de joueurs.
Ah oui, c'est pas mal. Donc ce jeu est super répandu.
Oui, il a connu un fort succès grâce à son accès gratuit et aussi car il est inspiré de Zelda Breath of the Wild, un jeu qui a connu le même succès pendant les années précédentes.
Il est aussi accessible à tous car il est multiplateforme, ça veut dire qu'on peut y jouer en multijoueur. Voilà comment il a eu ce succès.
Et on y joue sur quoi? Il faut le télécharger, j'imagine.
Il est disponible sur mobile, ordinateur et PlayStation. Actuellement, le jeu est toujours en cours de développement et donc pas totalement fini. Il faut savoir que comme il a été créé en Chine, les personnages et la culture du jeu sont asiatiques. Le monde de Genshin est plutôt un monde fantastique et magique.
Et donc, vous êtes toutes les deux fans de culture asiatique et de jeux vidéo.
Oui, on peut retrouver d'ailleurs Genshin Impact à la Japan Expo de Paris, qui aura lieu du 14 au 17 juillet prochain. C'est un salon événementiel créé en 2007 et organisé par Sefa Event, qui programme des Japan Expo en France et en Europe. Cette expo regroupe la culture japonaise autour des mangas, des jeux vidéo, des animés, des arts martiaux, de la mode, de la musique et du cinéma.
Il se situe à Paris au parc des expositions. Tous les ans en juillet, il y a environ 240 000 visiteurs chaque année. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas, grâce à la carte Rémi Liberté Jeune, l'aller-retour Tour Paris en train TER ne coûte pas cher.
Ce mythique duo va être adapté sous une multitude de formes, une série de jeux vidéo, Arkham Batman. Le premier jeu sort en 1986, suivi de plusieurs autres comme Batman Arkham City, Arkham Knight. Il y aura même une collaboration avec Lego, Batman le jeu Lego, avec trois versions différentes.
Il y aura bien sûr les films. Le premier Batman sort en 1989. C'est un film américain de Tim Burton. Le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent ou encore des Noces funèbres. Batman est joué par Adam West, qui aide le commissaire Gordon à combattre le Joker, qui est un super vilain déjanté, terrorisant la ville de Gotham. Plusieurs acteurs vont endosser le rôle du justicier, comme Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck et enfin Robert Pattinson en 2022. Batman fait son apparition dans d'autres films, avec plusieurs super-héros comme Superman, qui est le premier super-héros créé adapté en comics, ou encore Wonder Woman. Elle est aussi la première dans sa catégorie de super-héroïne à être apparue. Voilà ce qui montre la popularité du personnage, mais ce qui va nous intéresser, c'est le dernier film sorti en mars 2022, qui porte son nom et réalisé par Matt Reeves.
Nouvel acteur, nouveau producteur, mais toujours dans un univers sombre rempli de crimes pour environ 3 heures. Vous aurez droit à une bonne dose de scènes d'action, des apparitions folles, une course-poursuite spectaculaire, une ambiance sombre avec une bande originale qui vous plonge dans cet univers de super-vilains, se faisant remonter les bretelles par un Batman plus sombre, qui même dans ses plus grands retranchements, arrive à triompher contre le mal et à répandre sa justice au sein de Gotham City. On a trouvé ce film très bien réalisé, il y a de bons effets spéciaux, le personnage est très bien joué par l'acteur Robert Pattinson, le film contient aussi pas mal de suspense. Mais malgré tous ces arguments, on préfère quand même le jeu d'acteur de Christian Bale dans Batman Begins, The Dark Knight et dans The Dark Knight Rises. Alors pour faire votre propre avis, n'hésitez pas à le regarder.
Merci beaucoup pour cette explication très détaillée au niveau de Batman. Tout de suite, une interview sur le temps machine.
Bonjour à tous. Le 17 mai 2021, la classe de seconde 502 a visité le temps machine. Avant tout, le temps machine, c'est une SMAC, c'est-à-dire une scène de musique actuelle, située à Jouy-les-Tours. Elle possède deux salles, un club d'une capacité de 200 personnes et la grande salle qui peut accueillir 600 personnes. On a voulu en savoir plus, on a donc interviewé Marilyn, la programmatrice de la salle des temps machines, et Baptiste, chargé d'action culturelle qui doit amener de nouveaux publics au temps machine.
Quel est votre métier d'abord ?
Eh ben moi, mon métier, c'est d'être chargé d'action culturelle et de la programmation jeune public. Donc en gros, je m'occupe de monter des projets avec différents types de structures, des projets pédagogiques musicaux. Ça peut aller de projets avec des écoles, des lycées, des collèges, avec l'université, avec la maison d'arrêt, avec des centres de loisirs, des centres sociaux, où on va essayer de travailler, de monter des projets communs qui peuvent aller de l'écriture de texte à des initiations à la musique, à de la pratique, à de la création de spectacles avec des enfants ou des adultes, avec différentes choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pour la partie action culturelle. Et programmation jeune public, c'est qu'on met en place au temps machine entre 10 et 12 concerts sur la saison, donc de septembre jusqu'à juin, qui est réservé aux enfants de 0 à entre 12 et 14 ans, à peu près. Donc avec des spectacles par tranche d'âge qui leur sont réservés.
Et vous avez fait quel parcours d'études ou...
Moi, j'ai fait un lycée classique général. Après, j'ai fait une licence en sciences de l'éducation parce que je voulais être prof. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas bien. Donc, du coup, j'ai changé. Donc, j'ai fait une licence de communication. Et après, j'ai fait un master de communication publique. Et après, j'ai bifurqué vers un master dans le management culturel en spécialité action culturelle, donc le poste que j'ai aujourd'hui. Et puis, après, je me suis arrêté là.
Quel type de public vous voulez toucher au maximum ?
Tous sans frontières et sans aucune distinction en fait. Vraiment, on est ouvert à toutes et à tous même, je dirais, sans distinction aucune. Donc plus on touche de gens, et le mieux c'est, que ce soit les gens qui soient prêts, les gens qui sont loin, les gens qui ont l'habitude, les gens qui n'ont pas l'habitude, et vraiment le plus de gens possible. Quoi.
Et quel public vient le moins ou le plus ?
Le moins ou le plus, alors là, tu saurais répondre à ça, toi ?
Le plus, je dirais que c'est les gens qui sont le plus habitués aux sorties culturelles, entre guillemets. Donc ça peut être... c'est hyper varié, parce que ça peut aller des plus jeunes aux plus âgés. En fait, ça dépend ce qu'on t'apprend à la maison, en gros. Si tes parents te sortent, etc., t'as plus l'habitude de venir. Mais du coup, ça peut être très varié. Le moins, je dirais, c'est ceux qui ont moins accès à la culture. Donc qui pour eux ce genre d'endroit ne correspond pas à leurs habitudes et ne sont pas forcément pour eux, et c'est là que du coup Baptiste intervient pour
c'est ça pour créer, c'est ils sont dits les publics empêchés.
Je déteste
bien souvent,
ça, mais...
même si c'est un terme qui est
c'est horrible.
En gros, enfin, public éloigné, c'est-à-dire qu'ils sont éloignés de la culture de par soit leur éducation, soit géographiquement ils habitent pas proche de structures comme les nôtres, ils peuvent être éloignés de la culture parce qu'en situation de handicap, ou il y a différentes raisons pour lesquelles ils peuvent être éloignés de tout ça. Et moi du coup mon travail c'est d'aller aussi chercher ces gens là et c'est de travailler avec ces gens là et faire que ces gens là puissent être aussi touchés par la musique et avoir, parce que la culture c'est un droit en France en tout cas, et donc du coup c'est bien de pouvoir aller toucher ces publics là aussi.
D'accord. Et est-ce que vous avez eu des problèmes avec la crise sanitaire?
Non, je vois pas de... un peu, on a fermé nos portes, déjà, pendant tous les confinements et tout ça. Donc, surtout premier confinement, on pouvait absolument rien faire. Après, par la suite, on pouvait au moins mettre en place des résidences d'artistes, donc sur le plateau, soit dans la grande salle, soit dans le club. Et puis, on a pu continuer quand même à mettre en place des actions culturelles, mais du coup, pas forcément chez nous, mais plutôt dans les structures avec lesquelles on travaillait, donc dans les centres de loisirs, dans les... où est-ce qu'on avait fait d'autres ? Pas mal de centres de loisirs quand même, ou centres sociaux, ou dans les écoles aussi, on a pu continuer quand même à faire des trucs, mais après on a quand même été sacrément bloqués, et puis entre les masques, les passes sanitaires, le fait d'être assis et plus pouvoir faire des concerts debout, alors que nous normalement d'habitude c'est debout ici, le fait de pas avoir de bar, tout ça, ça a quand même, ça crée un peu quoi.
D'accord.
Et même encore maintenant que tout est rouvert, on sent qu'il y a quand même une perte d'habitude de la part du public. Quand même.
Merci.
De rien.
Ok, du coup je vais vous poser des questions à vous, Marilyn.
Oui, tu peux me tutoyer si tu veux.
Ok. Alors, quel est votre métier ?
Alors, mon métier, l'intitulé exact est programmatrice et coordinatrice du pôle artistique et culturel. Donc, en gros, je chapeaute le pôle artistique et culturel dans lequel Baptiste participe, fait partie de l'équipe, avec Nathan aussi qui s'occupe de l'accompagnement artistique, et puis Paul, que vous avez certainement croisé, qui est en service civique chez nous. Et mon métier, c'est consiste à faire de la programmation, donc c'est aller chercher les artistes pour les proposer au public ici. Et ça comprend pas mal de choses plus ou moins pénibles. Donc par exemple la tenue du budget, ce que je disais tout à l'heure à vos camarades, la tenue du budget, des choses comme ça qui sont un peu plus moins fun. Mais après c'est aussi faire de la veille sur la musique, écouter beaucoup beaucoup de musique, aller chercher un peu les talents de demain pour les proposer au public, cerner le public aussi qu'on a envie de toucher, ce que disait tout à l'heure Baptiste, via la musique. Voilà.
Et est-ce que vous avez fait des études spécialisées par rapport à ça ?
Alors, sur la programmation, il n'y a pas d'études. C'est vraiment de la formation sur le terrain, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une licence de sociologie. J'ai fait un DU en communication. Et après, j'ai commencé par faire de la régie, de la technique. J'ai été intermittente pendant très longtemps. Et en fait, à côté de ça, j'ai monté mon association pour faire de la programmation. Et petit à petit, comme ça, je suis venue à faire de la programmation d'abord à Paris, puis ensuite ici, au Temps Machine.
Ok. Donc, par rapport à votre métier, c'est donc de ramener des artistes et de les programmer dans, dans cet endroit. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous pouvez les trouver et les contacter ?
Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a un autre métier qui s'appelle tourneur ou booker en anglais. Et en fait, ils ont des catalogues d'artistes. Et ils vendent leurs artistes, un peu comme quelqu'un qui vendrait... Enfin voilà, c'est la base du métier de commercial, on va dire. Sauf que là, on parle d'artistique, donc c'est quand même un peu plus compliqué, on va dire, puisque c'est de l'être humain. Mais en tout cas, leur métier consiste à repérer des jeunes artistes qui n'ont pas d'entourage professionnel, c'est-à-dire pas de management, personne pour les accompagner. Et eux, ils les accompagnent pour créer des tournées. Et donc, ils contactent des gens comme moi pour vendre des dates pour ces artistes-là. Et donc, moi, soit je passe via ces tourneurs-bookers pour aller chercher des artistes, soit je passe par les artistes en direct quand ils ne sont pas assez connus ou qu'on ne les a pas encore repérés. Et voilà, par exemple, sur les artistes en local, souvent c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va les engager en direct.
Ok. Et est-ce que vous avez des artistes dont vous, qui vous ont marqué ou dont vous êtes fier, entre guillemets, de voir ramener autant machine ?
Ouais, il y en a plein et pour différentes raisons. C'est assez marrant, mais je suis hyper contente qu'on ait eu il y a 2 ans, par exemple, Eddie De Preto qui soit passé au Temps Machine parce que c'est une petite salle. Enfin, une petite salle, ça fait quand même 600 places, mais c'était déjà une période où Eddie De Preto faisait des plus grandes salles. On a eu de la chance de l'avoir parce qu'il était sur un day-off. Ce qu'on appelle day-off, c'est une journée où il ne travaillait pas. Mais il passait de Paris à partout pour aller je ne sais où. Et en fait, on a pu l'avoir sur ce temps-là et proposer un concert avec lui. Donc ça, c'était chouette. Et après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres artistes artistiquement sur lesquels je suis contente d'avoir eu. Mais après, il y a plein d'autres artistes où j'étais hyper contente. Je sais pas, un rappeur comme Isha, par exemple, qui n'était pas du tout connu il y a 3 ans. Ou d'avoir programmé aussi, on n'a pas pu le faire en mars 2020, mais Attic, qui n'était pas du tout connu et qui a explosé en vol avec Validé. Enfin voilà, je sais pas, Altin Gun, un groupe de... musique turque, pareil, qui n'était pas du tout connue et qui, en fait, a fait... Enfin, voilà, en général, chaque artiste qui vient ici, je suis quand même assez contente de les recevoir. Ou même les derniers qui nous ont vraiment marqués, c'est Well Classical Music Ensemble, parce que c'est un groupe belge fait de monté par un batteur et qui est fait avec des... Enfin, les musiciens qui jouent dans ce groupe sont atteints d'handicap. Donc, t'as une personne qui est handicapée mentale, t'as un trisomique, quelqu'un atteint de trisomie, etc. Et c'était hyper fort comme concert et vraiment chouette parce que voilà, on parlait de toucher tous les publics, mais aussi sur la scène, c'est bien d'avoir toutes les représentations possibles, à savoir toutes les personnes qui peuvent monter sur scène, des hommes, des femmes, des gens atteints de handicap, tout ça.
Merci. Et dernière question, est-ce que vous avez des choses qui vous passionnent dans ce métier ?
La musique, j'ai envie de dire. Ouais, enfin, je pense que c'est la musique, moi, qui me passionne depuis toujours. En fait, je me suis toujours dit que j'allais travailler dans la musique. Je ne savais pas vraiment comment. Et enfin, voilà, moi, je me voyais plus écrire, en fait, dans un journal ou j'en sais rien, chroniquer des albums. Et finalement, faire de la programmation, c'est pas mal parce que j'écoute de la musique quand même tous les jours. Et voilà, je pense que c'est la musique aussi et l'humain qui me passionne. Je pense que c'est le rapport à l'autre aussi qui est hyper intéressant dans ce métier-là.
Ok, merci pour avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Merci à vous.
De rien. Et à la prochaine.
À bientôt.
Merci beaucoup pour cette chronique.
Et tout de suite au micro, on accueille Ali, Florian et Léandre. Ils vont vous présenter un certain Hajime Isayama, l'auteur du manga L'Attaque des Titans. Mais avant qu'il vous parle de lui, savez-vous ce qu'est un manga? Vous me direz, c'est juste une BD qu'on lit à l'envers. Bah, en fait, c'est plus que ça. Ali, tu nous en dis plus?
Oui, tout d'abord, il existe différents types de mangas, destinés à différents publics, définis selon l'âge et le sexe.
Et il sert à quoi ce classement?
Eh bien, il est pratique pour faire ses choix et pour trouver ce qui nous plaît.
Tu peux nous expliquer ces catégories? Par exemple, il y a le Lekodomo manga?
Oui, c'est un manga destiné aux enfants, par exemple Pokémon ou Astro Boy.
D'accord. Ensuite, le shonen, tu peux nous en dire plus ?
Oui, le shonen, c'est un manga destiné aux jeunes garçons de 7 à 18 ans, avec des héros auxquels on peut s'identifier.
Ah oui, donc parmi les shonen, on peut y trouver Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto.
Oui, c'est ça.
Et le shoujo alors?
Ce manga est destiné aux jeunes filles avec des histoires romantiques. Pour finir, on trouve aussi le seinen destiné aux étudiants ou jeunes adultes. Il y a aussi le josei, c'est une version féminine du seinen. Et enfin le Gekika, c'est un manga destiné aux adultes qui va mettre en scène un drame social.
J'ajoute que le manga a une autre particularité. En raison du rythme élevé de parution, pour limiter le coût d'impression, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, mis à part la couverture.
Très bien. Alors Florian, tu as des infos à dire à nos auditeurs sur l'histoire du manga ?
Eh bien oui. Saviez-vous que ce que veut dire manga ? Ce mot est construit à partir de deux idéogrammes. Les idéogrammes, ce sont des caractères empruntés aux Chinois, car jusqu'au 5e siècle, les Japonais n'avaient pas de système d'écriture. Leur langue était uniquement orale. Le premier idéogramme signifie « dérisoire ou léger », ainsi que « exécuté au fil de l'idée ». Le second idéogramme, ou kanji, désigne une image dessinée. On peut donc traduire le mot manga par « image pour divertir ».
Mais le manga, c'est pas aussi une industrie ?
Carrément, oui. Au Japon, le fonctionnement repose sur un système de prépublication, dans des magazines spécialisés. Ces revues publient des épisodes de nombreuses séries différentes. Et chez nous, en France, c'est dans les années 1980 que les mangas deviennent l'une des lectures favorites des Français. Notre pays est actuellement le plus gros consommateur de mangas au monde. Eh oui. Et devine quelle tranche d'âge on lit le plus ?
Ben, nous.
Oui, presque. Ce sont les 18-25 ans qui les lisent de plus. Et un manga sur deux est acheté pour être offert.
Léandre, as-tu des infos à partager sur un dessinateur renommé Hajime Isayama ?
Oui. Hajime Isayama est né en 1986 à Oyama, au Japon. Au lycée, il dessinait du manga. Son œuvre la plus populaire est l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, dans son titre original. Désolé pour la prononciation.
Et ça parle de quoi ce manga ?
Sans spoiler, cette histoire parle d'un monde où l'humanité est réduite à se protéger derrière des murs gigantesques pour être à l'abri de monstres humanoïdes mangeurs d'hommes, les Titans. On suit un groupe de trois enfants, Eren, Mikasa et Armin, qui vivent la chute du mur Maria et voient leur vie s'effondrer. C'est le choc et la panique générale, puisque ça faisait 100 ans que les murs gardaient la civilisation humaine en sécurité. Ce qui est bien, c'est que l'on voit nos trois personnages principaux grandir et évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Les batailles sont grandioses et on tient les fans en haleine grâce au mystère de l'univers créé par Hajime Isayama. Au départ, l'Attaque des Titans était un one-shot. C'est un manga où toute une histoire est développée en un seul tome. Hajime décide de montrer ses dessins à Kodansha, la plus grande maison d'édition de l'archipel japonais, afin d'être dans le Weekly Shonen Magazine. Et grâce à ce pilote, il reçoit plein de prix et sa carrière décolle. Il travaille à Tokyo à 20 ans, dans un cybercafé, et sort d'autres œuvres comme Hors et Her Break One. En avril et septembre 2013, la première saison de l'Attaque des Titans voit le jour sous forme d'animé sur la chaîne MBS au Japon.
Transition en direct, on va parler des réseaux sociaux et de leurs dangers.
Bonjour, nous allons vous parler des réseaux sociaux et d'une dérive qui est très fréquente.
Mais Inessa, c'est bien les réseaux sociaux, on les utilise tous ?
Oui, au début cela paraît amusant et inoffensif, mais en vérité, il existe certains risques que nous allons évoquer. Comme tu le sais, les réseaux sociaux peuvent parfois conduire à la dépendance, à l'anxiété, à la dépression. Aujourd'hui, on s'intéresse à une pratique qui consiste à espionner quelqu'un sur un réseau social et qui s'appelle le stalking.
Hein ? Mais c'est quoi ça ?
Eh bien, celui qui pratique le stalking est un stalker, autrement dit, c'est quelqu'un qui connaît la vie de l'autre et peut se montrer oppressant, voire harceleur. C'est très flippant. Il pense pouvoir contrôler cette personne ou même récolter des informations pour créer une complicité.
L'accès rapide, facile et anonyme à l'information a tous fait de nous des espions. L'espionnage sur le web est une forme d'harcèlement qui signifie traquer l'autre partout pour établir une sorte de contact ou de relation.
Actuellement, le mot stalker est désormais utilisé pour définir une personne qui utilise Internet, en particulier les réseaux sociaux, pour surveiller ou espionner la vie des autres. Cela peut même aller jusqu'à l'usurpation d'identité. Cela consiste à prendre le contrôle de l'identité virtuelle d'une personne sur un réseau social en lui soutirant son mot de passe et son identifiant.
L'usurpateur peut alors se faire passer pour la personne en divulguant de fausses informations sur elle.
Vous avez peut-être entendu parler de l'arnaqueur de Tinder, série sur Netflix inspirée de faits réels. On y croise un escroc opérant sur une application de rencontre, puis par la suite, un groupe de femmes se réunit pour le traquer et tenter de récupérer les millions de dollars qu'il leur a volés.
Il faut donc se méfier de ce monde virtuel qui au début peut paraître rose car il a une face bien mystérieuse cachée.
Merci à Yacine et Inessa de nous avoir fait part de cette part sombre des réseaux sociaux.
Et on accueille tout de suite Pauline et Morane qui reviennent sur les occupations des jeunes pendant le confinement. Bonjour Pauline et Morane.
Bonjour.
Bonjour. Pour nous les jeunes, il y a vraiment un avant et un après mars 2020. Avant, on pouvait aller au cinéma, boire un verre en terrasse, voir nos amis, sortir quand et où on voulait sans restriction. Bref, faire les choses banales de la vie mais qui nous sont essentielles.
Puis le 11 mars 2020, tout ça s'est arrêté. Suite à l'annonce du président Emmanuel Macron, c'est à ce moment-là que le confinement a commencé. Morane et moi, nous nous sommes intéressés aux loisirs des jeunes durant ce confinement. Comment ont-ils fait pour s'occuper ou encore ont-ils découvert de nouvelles occupations ?
Lors du premier confinement, seuls 2% des enfants ont été accueillis à l'école. Les habitudes de vie ont donc été bouleversées. On a relevé que le temps accordé aux activités scolaires a beaucoup diminué. Seul un tiers des enfants y a consacré plus de 3 heures par jour. Et alors, ça a laissé plus de temps aux loisirs ?
Eh bien oui, à l'inverse, le temps consacré aux loisirs a augmenté. Les types de loisirs pratiqués ont varié en fonction du genre, de la classe sociale, du nombre d'enfants dans la fratrie ou encore des conditions de logement.
Souvent, un des deux parents du foyer familial pouvait avoir recours à un système de télétravail. Ça a donc permis aux enfants d'être plus autonomes. Ceux qui bénéficient d'un jardin ont été plus avantagés et ont pu profiter d'un espace de défoulement.
Bon alors, concrètement, ils ont fait quoi ces jeunes pour s'occuper ?
Les principaux loisirs des jeunes durant ce confinement ont été les jeux vidéo, la lecture, le sport, la cuisine, mais également les activités artistiques et musicales. Certains loisirs ont pu rapprocher les enfants des parents, notamment avec les activités partagées.
En conclusion, nous avons pu remarquer que le confinement a eu un effet à double tranchant sur les jeunes. Pour certains, ça a été bénéfique. Ils ont pu découvrir de nouvelles passions, notamment le sport, passer du temps en famille quand c'était possible, le jardinage et tout un tas d'autres activités.
Mais d'un autre côté, il a été difficile pour d'autres jeunes. Quelquefois, ils ont eu le sentiment d'être privés de liberté, ils se sont renfermés sur eux-mêmes et se sentaient seuls du fait de ne plus voir leurs proches.
Très bien, et bien, très triste période de nos vies, mais nécessaire. On passe dès lors au prochain groupe.
Et pour finir cette émission, on accueille Mila et Nursana. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous nous transportez dans le monde de l'entreprise.
Oui, et on a choisi de vous parler plus précisément du statut d'auto-entrepreneur ou encore de micro-entrepreneur. Mais qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur ? Pourquoi choisit-on de le devenir ? Quels sont les avantages et les inconvénients quand on est son propre patron ? Toutes ces questions trouveront des réponses dans cette chronique. Tout d'abord, un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Ce statut simplifie les démarches administratives en relation avec l'État et permet d'alléger la comptabilité. Pour avoir ce statut, il faut que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas une certaine somme.
Chacun a des raisons différentes de vouloir le devenir. Nous sommes partis à la rencontre de M. Poitou, le gérant de la société AMV Conseil basée à Artonne-sur-Lin.
Monsieur Poitou, pourquoi avoir créé une micro-entreprise ?
Bonjour Mila, j'avais fait le tour de mon ancien travail et je voulais vivre une nouvelle aventure.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité ?
Alors actuellement, je suis consultant formateur auprès de mairies, principalement. Je les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets.
Pouvez-vous nous décrire les avantages et les inconvénients ?
Alors le premier, si ça marche, c'est grâce à nous. On est seul et c'est très valorisant. L'inconvénient, c'est si ça ne marche pas, on n'a pas de salaire.
Concernant la création de l'entreprise, comment avez-vous fait ?
J'ai pris des renseignements sur Internet. Ensuite, j'ai rencontré des personnes de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie, et j'ai monté le dossier sur la plateforme Internet dédiée. C'est très rapide.
Nous avons des jeunes auditeurs qui nous écoutent et peut-être parmi eux des futurs auto-entrepreneurs. Pouvez-vous nous donner des conseils ?
Alors, l'auto-entrepreneur, c'est un super dispositif et c'est un très bon outil pour commencer une activité. Il faut croire en ses rêves et se donner à fond. Une vision, du sens et un plan, et ça va marcher.
Nous espérons que cette interview aura donné envie à certains de se lancer.